Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Avec Roland Courbis et avec nos correspondants, c'est le Multiligue de 21e journée. Et il s'est passé des trucs, notamment au Matmut Atlantique entre Bordeaux et Le Havre.
Et ouais, le but à vrai. Ils ont quand même la réussite insolente du champion, les joueurs du Havre. Parce que là, certes, il y avait une perte de balle de Gregersen. Un 4 contre 3, même un 5 contre 4 à jouer pour les Havrais. On décale sur le côté droit. Josué Casimir qui veut centrer. Il ouvre son plat du pied et le centre termine direct dans le but de Gaëtan Poussin. Il n'a pas du tout fait exprès. Ça a été même. Marrant de le voir célébrer, hein.
Mais si.
Ah ben, lui, il s'est pas gêné, non, pour pas célébrer.
Ouais, il était un peu surpris au départ et après il est allé chambrer devant le COP bordelais. 1-0 pour les Havrais contre le cours du jeu à la 15e minute. Le but de Casimir, son premier de la saison. Alors que, attention à cette nouvelle paire de balles de Franck Sergio. Il y a un ballon à exploiter là pour le cal, la feinte de frappe. Il va se remettre sur son pied gauche. Il est dans la surface de réparation. On va juste suivre cette action avec le centre d'Opéry sorti par Malcolm Bokele. Attention parce que les bordelais là sont un petit peu à l'envers depuis ce but contre le cours du jeu. 17 minutes de jeu, bientôt 18, 1-0 pour Le Havre.
Et attention, parce que ça veut dire que Le Havre a 10 points d'avance sur Bordeaux. Et attention, Bordeaux risque, parce que derrière, Sochaux est en train de pousser. Et Sébastien Ruffet, pour Sochaux, ça se passe bien face à Valenciennes.
Et ouais, ils font plus que pousser puisqu'ils ont marqué également ces Sochaliens par l'intermédiaire de Sissoko avec un but au départ très bien construit. Sur la fin, c'était plus brouillon puisque Valentin Henry déborde côté droit après un joli jeu en triangle. Il rentre dans la surface de réparation, le centre en retrait. Puis Sissoko reprend. Il a un petit peu contré ce ballon qui vient rouler tout doucement et qui finalement franchit la ligne de but. Ça, c'est l'arbitre assistant qui l'a vu puisque l'arbitre de centre, lui, n'avait absolument pas vu ce ballon. C'est lui qui a signalé qu'il avait entièrement franchi la ligne. Et ça fait 1-0. Ça vient confirmer le bon début de match de ces Sochaliens qui reviennent à hauteur donc pour l'instant des Bordelais et un excellent coup franc à venir pour ces Sochaliens à l'issue de ce contre. Et cette faute, on est allé juste devant la demi-lune, là devant les 16 mètres de la surface de réparation de Stéphane Bajic, le gardien valenciennois. Il y a le pied droit de Gaëtan Weisbeck, bien sûr. Il y a aussi le pied gauche de Tony Mauricio. Ce sera pour Mauricio enroulé. Oh la lucarne, il va la chercher, c'est magnifique. Superbe coup franc roulé pied gauche. Tony Mauricio, juste là où il fallait la mettre. Il y avait juste la bonne distance pour qu'elle passe par-dessus le mur et qu'elle redescende. Oh qu'il est beau ce coup franc. Il est exceptionnel et ça fait 2-0 pour Sochaux.
Eh ben écoute, nous on a un léger différé et on va le vivre maintenant là en différé justement ce coup franc. Et là c'est tendu hein, pour Bordeaux Roland.
Je sens qu'il est dangereux ce coup franc.
Attention, bon coup franc coach, parce que j'ai retenu aussi.
Il est pas mal. Et ça fait 36 points pour Bordeaux, ça fait 36 points pour Sochaux. Hein. Mine 2.
Et avec la même différence de but, ouais, désormais.
Ça commence à devenir tendu pour Bordeaux, là, Roland.
Ah, bah oui. Surtout que le troisième, il n'est même pas barragiste cette année.
En plus, ouais. Il n'y a que les deux premiers qui montent. Hein,
ouais, il reste du temps, hein, il reste des matchs quand même.
Ah ouais, oui. Regarde-le, il est en panique, le Bordelais. Là.
Non, il est en panique. Justement, on a posé la question à David Guillon en conférence de presse. Il est conscient quand même qu'il peut perdre face au Havre, que c'est la grosse équipe de cette saison et qu'il y aura des matchs à jouer derrière. Donc on ne s'affole pas trop pour le coup. Alors après, vous allez me dire, c'est très certainement un discours de façade.
Méthode couille.
Mais pour le coup, je pense que vraiment, on était prêt à perdre ce match. Et il y a plein d'autres échéances derrière, notamment contre Sochaux et Metz qui vont des matchs plus importants, je pense, pour Bordeaux que cette réception du Havre.
Allez, on rappelle, hein, Le Havre mène 1-0 à Bordeaux, Sochaux mène 2-0 face à Valenciennes. On va se faire un petit point mercato avec Fabrice Hawkins, on vous rappelle, hein, on est le 31 janvier, c'est le dernier jour du mercato hivernal. Tout à l'heure, on était avec Rolando hein, dans l'After Live qui nous parlait de Vitinha qui arrive du côté de l'OM. On attend d'ailleurs que ce soit officiel. Il y a des petites infos qui nous viennent de Paris, notamment Fabrice. Hein.
Ah oui, avec les dossiers qu'on suit ce soir, évidemment, hein, Keylor Navas, Milan Skriniar également, Hakim Ziyech aussi, on l'a dit tout à l'heure, le milieu offensif de Chelsea, l'ailier qui est actuellement à la Factory, mais c'est du côté de Keylor Navas que ça bouge. Le PSG et Nottingham ont trouvé un accord pour le transfert du gardien Keylor Navas. Néanmoins, dans ce dossier, tant que rien n'est signé, il n'y a pas lieu de s'emballer. Hein. On l'a vu, c'est chaud, parfois c'est froid et surtout, il reste que 2 heures.
Et parfois, c'est tiède même.
Oui, ça arrive aussi. Il reste que 2 heures de mercato. On rappelle qu'il faut avoir envoyé les contrats à l'LFP à 23h, le Costaricain était déjà d'accord pour rejoindre le club anglais. Le volet administratif de ce dossier n'est pas encore bouclé et ça, il va vraiment falloir faire attention. Et puis, un petit mot aussi sur Milan Skriniar. Ça s'annonce très, très compliqué pour lui. On le sait, l'Inter n'est pas en plein de lâcher tant qu'ils n'ont trouvé personne. Ils ne vont trouver personne puisque Le marché des transferts italiens s'est clôturé à 20h, mais au Paris Saint-Germain, on ne lâche pas. On souhaite vraiment récupérer Milan Skriniar dès cet été, mais pour le moment, c'est
quelle parade énorme d'Arthur Desmas sur sa ligne, sur cette superbe action bordelaise avec ce décalage pour David Tajvili. Les passements de jambes du géorgien, met totalement dans le vent El Hadjam, et derrière le centre au deuxième poteau, Bokele, il arrive lancé plein fer, la tête smashée, et Desmas qui du bout du pied vient la sortir. 1-0 pour les Havrais, ça pousse côté Bordeaux.
Vas-y, on te laisse finir, Fabrice.
Oui, non, simplement pour dire que ça semble pas bien engagé, même si c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, notamment Christophe Galtier, on souhaite récupérer Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan, dès cet hiver.
Le micro est ouvert, t'interviens dès qu'il y a des nouveautés, dès que ton téléphone a sonné, mon cher Fabrice Hawkins. On rebascule sur la Ligue 2, le Multiligue de 21e journée. On rappelle Bordeaux mené 1-0 face au Havre, on l'a entendu de la voix de Nico Paolo Orsi. Grosse occasion bordelaise il y a quelques instants. Sochaux mène déjà 2-0 face à Valenciennes. Comment ça se passe à Bastia, entre Bastia et Saint-Etienne, Julien Pernici?
Eh ben, toujours 0-0 au bout de 23 minutes de jeu entre les deux équipes. Les Bastiais qui continuent de pousser avec à l'instant une tête de Christophe Vincent qui est passé très près des buts de Gauthier Larsonneur. Et puis il y a 5-6 minutes de ça, Saint-Etienne a eu une première vraie occasion avec Gaëtan Charbonnier qui avait été très bien servi dans la surface. Ça a failli rentrer. Ça veut dire que Charbonnier et Crasso, c'est très dangereux devant du côté de Saint-Etienne. Ils n'ont pas eu beaucoup de ballons, mais quand ils vont en avoir, la défense bastiaise va devoir faire attention. D'ailleurs, les Bastiais sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires 1-0 et la plupart du temps dans le dernier quart d'heure. Donc il va peut-être falloir attendre un peu ici du côté de Bastia pour avoir des buts. Mais en tout cas, c'est toujours 0-0 entre les deux équipes.
0-0 également entre Grenoble et Quevilly-Rouen, Edouard G.
Ouais, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est tout à l'heure ce tir de Quevilly sur le montant avec Louis Mafuta. Mafuta qui a aussi s'est essayé cette fois-ci avec une tête plongeante sur un bon centre de Nelson Sissoko, mais c'était imprécis, c'est allé à côté du côté de Grenoble. On n'arrive pas à mettre de rythme, on n'arrive pas à être précis dans les centres, dans les passes, même les appels, notamment tout à l'heure Jordan Tell est parti à droite et le ballon lui est allé à gauche. On va peut-être avoir une occasion, toujours 0-0, bientôt 25 minutes de jeu pour des Grenoblois avec un coup franc aux 25 mètres. On va essayer de chercher la tête là-bas. Non, bah finalement, même un coup de pied arrêté, on n'arrive pas à trouver de hauteur. Et le ballon, bah finalement, est vite dégagé par les hommes d'Olivier Echouafny. On en reste à 0-0 dans un match pour l'instant terne.
Même punition entre Guingamp et Nîmes, Xavier Grimont. Hein.
Oui, même punition avec un match plutôt équilibré, même si ce sont les Guingampais qui ont peut-être eu le plus de situations. On a vu Mouyumba tout à l'heure dans la surface de réparation, sa frappe contrée au dernier moment. Et la mauvaise nouvelle pour les Guingampais avec la blessure du défenseur central Félix Eboa. On va suivre d'abord les Nîmois à l'attaque avec Rafiki Saïd. Benezé peut peut-être ouvrir. Benezé, il s'ouvre le chemin du but. Peut-être un petit peu trop la bonne passe pour Saïd. Oh, le contrôle. Le mauvais contrôle de Rafiki Saïd. Ouais, la mauvaise nouvelle pour Eboa, il s'est blessé. A priori derrière la cuisse, lui qui a été éloigné des terrains pendant quasiment 18 mois. Il y a encore pas longtemps, là cette fois c'est moins grave, mais voilà, il est obligé de sortir, remplacé par Mathis Rioux en défense centrale. 26 minutes de jeu, 0-0 entre Guingamp et Nîmes.
0-0 également à Charletti entre le PFC, entre le Paris FC et Pau, puisque c'est le PFC ICO, hein, tu le disais tout à l'heure Clément Brossard.
Exactement, deux PFC dans cette Ligue 2, 0-0, mais pas mal d'occasions. Je vous parlais tout à l'heure d'une domination certaine des Parisiens, surtout lors des 12 premières minutes, avec trois opportunités vraiment pour les hommes de Thierry Loret, peut-être une quatrième à l'instant avec une frappe à l'entrée de la surface de réparation, tranquille. Capté par Massamba Ndiaye, le gardien palois, mais Warren Kadi, l'attaquant parisien, est déjà tombé deux fois sur le gardien numéro 2, promu numéro 1 avec le départ de Oliero à Reims dans cette dernière journée de Mercato. Et puis la tête de Florent Hanin après 5 minutes de jeu qui est passé aussi au-dessus. Il y a vraiment de bonnes choses côté parisien. La réaction peut-être paloise à l'instant, c'est trop profond finalement pour Mons Bassouamina. Il y aura peut-être des arguments à faire valoir également pour les palois sur le banc, parce qu'il y a eu un Mercato assez intéressant avec des prêts, surtout celui de Quentin Boigard qui arrive de Lorient, celui de Yanis Bekraoui qui lui arrive de Toulouse, et ça c'est des arguments offensifs qui pourront peut-être faire la différence sur la pelouse de Charletti. 27 minutes 0-0
sur les 4 autres pelouses, hein, les 4 autres matchs. Benoît Boutron, ça bouge pas non plus, hein.
Toujours pas de but, non, pour l'instant. Metz, Rodez, Niort, Amiens, Annecy, Caen, Laval, Dijon, 0-0 partout. On va atteindre la demi-heure de jeu.
Allez, on repart à Bordeaux. Bordeaux mené 1-0 face au Havre. Nico Paolorsi, match plaisant, hein, ton Bordeaux-Le Havre.
Oui, il est plaisant ce match, domination bordelaise. 1-0 pour les Havrais malgré tout contre le cours du jeu. Le premier but cette saison de Casimir qui voulait centrer. Il ouvre son pied et ça termine dans le petit filet de Gaëtan Poussin. Les Bordelais ont touché la barre. Arthur Desmas, c'est pour l'instant très bon. Et Bordeaux qui va essayer de se relancer avec un bloc Havrais très très compact et équilibré. On le disait, 8 buts encaissés seulement en 20 matchs. Ça se ressent. Ils sont sûrs de leur force. Le ballon pour Bokele avec Stian Gregersen qui va essayer de se projeter pas loin de la moitié de terrain du Havre. Attention Johan Barbès, ce ballon lui reste dans les pieds. Il y a une possibilité sur le côté droit peut-être, mais on voit que c'est stérile, il n'y a pas de solution parce que c'est très très resserré au niveau des deux lignes du milieu de terrain et de la défense havraise, et Bordeaux qui galère un petit peu. 1-0 pour le Havre. On joue la 26e minute de jeu. Je vois strictement rien sur ce chrono, donc je crois que c'est la 26e minute de jeu.
Ouais, 27e quasiment. Ouais, mais t'es là toi, t'as une horloge à la place du cerveau. Ouais,
c'est ce qui se dit.
Ouais, c'est ce qui se dit effectivement. Sochaux qui mène 2-0 face à Valenciennes. Sébastien Ruffet, ils sont en train de mettre la pression sur les Bordelais. Ils reviennent à 36 points à hauteur des Girondins, les Sochaliens, avec ce résultat.
Ah ouais, c'était exactement le contrat ce soir pour Olivier Guégan et ses joueurs qui étaient de, ben, quoi qu'il arrive, du côté de Bordeaux, de gagner ce match pour continuer à être au contact. Il y aura un déplacement à Rodez. Il y aura la réception du Havre dans une dizaine de jours. Le Sochaux, le Havre, samedi 11 à 19h. Il y aura du monde, c'est certain, ici à Bonal, parce que, eh bien, il y a un coup à jouer. Ils avaient fait jeu égal au Havre il y a quelques semaines de ça, mais cette défaite à 1-0 qui leur reste un petit peu en travers de la gorge. Et c'est vrai que voilà, les Sochaliens pour l'instant assument leur statut de prétendant à la montée. Ils ne s'en cachent pas, c'est l'ambition. Et pour l'instant, les Valenciennois sont un petit peu en peine. Ils essayent de construire un petit peu là sur le côté gauche, notamment avec Florian Martin qui est titulaire ce soir, un ancien de Sochaux qu'on connaît bien ici, qui a mis quelques petites pépites aussi avec sa patte gauche. Mais pour l'instant, on ne le voit pas trop, l'ancien Sochalien. Et les jaunes et bleus sont plutôt à leur main maintenant avec ce 2-0 à la demi-heure de jeu. Ils sont plutôt tranquilles, mais quand même attention à ces Valenciennois qui sont quand même toutefois un petit peu, voilà, à chaque fois qu'il y a un contre, on sent que ça peut passer, même si pour l'instant ça ne passe pas parce que les Sochaliens sont tout simplement très bien organisés. 29 minutes ici à Bonal, 2-0 donc pour Sochaux face à Valenciennes.
0-0 entre Bastia et Saint-Etienne, Julien Pernici. On a l'impression que Saint-Etienne va un peu mieux quand même, Julien.
Oui, ça fait 5 bonnes minutes que les Stéphanois effectivement sont plus précis dans leur transmission, voient un peu plus de l'avant et sont un peu plus aussi sur la défense bastiaise. À noter d'ailleurs du côté stéphanois les débuts de Lamine Fomba ce soir, le joueur qui a été transféré de Nîmes il y a quelques jours de cela. Mais pour l'instant ce sont les Bastiais qui vont avoir un coup franc à 27 mètres des buts, un coup franc un peu excentré qui va tirer soit par Salamon soit par Caïbou. Mais oui, effectivement, je confirme Nico que eh bien, cette équipe stéphanoise, elle reprend des couleurs dans un match qui est plaisant à voir parce qu'il est rythmé. Donc toujours 0-0 entre Bastia et Saint-Etienne, on est pile à la demi-heure de jeu.
Doudou, Edouard G, oui. Tu sais que ça va finir 0-0 au Grenoble-Quevilly-Rouen.
Et pourtant, 30e minute, effectivement, 0-0.
Et pourtant, il y a 0-0, arrête.
Au tiers du match, tu as raison. Est-ce à la fin, tu auras raison. Ça a failli pour Quevilly.
Ouais, ça a failli.
Ça fait que faillir par Kalidou Sidibé qui était bien lancé par Issa Soumaré. Une belle remontée de balle et cette balle en profondeur à l'entrée de la petite surface de réparation. Brice Maubleu a bien couvert l'angle et du coup, eh bien, le ballon s'est retrouvé dans le petit filet mais à l'extérieur de celui-ci. Mais avec le poteau tout à l'heure de Louis Mafouta à la 12e minute, une tête plongeante du numéro 9 de Quevilly-Rouen. Bon, vous l'avez compris, pour l'instant, ce sont plutôt les Normands qui sont devant au point, mais au tableau d'affichage, et oui. 31 minutes de jeu, 0-0, mon cher Nicolas. Oui. Si tu veux, je m'en vais tout de suite.
Non, puis, non, reste avec nous. Non, on est bien là, t'inquiète. Tiens, attention, il y en a un qui est en train de mettre la pression aussi. Bah, c'est Amiens. Amiens, mon cher Benoît Boutron,
ouais.
Qui mène face à la Lanterne Rouge.
Grâce à un petit jeune, Papy Cissé, 37 ans, une carrière longue comme le bras. Ben voilà, c'est lui qui ouvre le score à New York qui est dernier de Ligue 2. But de la tête, ça fait 1-0 pour les Amiennois qui se relancent. Tu l'as dit, ils reviennent à 3 points des Girondins de Bordeaux qui sont toujours deuxième pour l'instant, à 3 points de Sochaux également. Mmh. Amiens, c'est l'autre équipe en forme. Ils ont tenu tête au Havre le week-end dernier. Ils auraient mérité de l'emporter avant de concéder le match nul.
Les scores sur les autres matchs, Benoît, s'il te plaît.
0-0 partout. Metz, Rodez, Annecy, Caen et Laval-Dijon.
Le temps, le score, messieurs, Bordeaux-Le Havre, Nico Paolorsi.
Il reste 12 minutes de jeu, une nouvelle occasion bordelaise qui passe au-dessus et ce sont les Havrais, le leader qui mène 1-0. Le but de Casimir à la 15e.
Sochaux-Valenciennes, Sébastien Ruffet.
À 13 minutes 30 du terme de cette mi-temps, Sissoko, Mauricio, les deux buteurs sochaliens pour ce score de 2-0 face à Valenciennes.
Bastia Saint-Etienne, Julien Pernici.
32 minutes, toujours 0-0 entre Bastia et Saint-Etienne.
Guingamp-Lim, Xavier Grimaud.
La 32e, 0-0 et la meilleure impression là sur ces dernières minutes, elle est clairement pour Nîmes.
Paris FC Pau, Clément Brossard.
32 minutes, 0-0.
Et puis vous l'avez entendu tout à l'heure, 0-0 également entre Grenoble et Quevilly. Rouen, on revient dans une poignée de secondes pour la suite de ce Multiligue 2 avec Benoît Boutron et avec Roland Courbis. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Avec Roland Courbis, c'est le Multiligue de 21e journée. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de buts. Hein. On est à la 33e.
Il y a un but à Guingamp, à l'instant. On l'a raté de peu, juste avant que tu reviennes. L'ouverture du score Guingamp pèse sur une action qui était pas mal amenée. On est parti côté gauche, on a changé d'aile côté droit, on est revenu côté gauche. Le centre et la tête de Baptiste Guillaume, je pense qu'il voulait cadrer. Il attrape pas le cadre, mais à l'affût, Loïc Mbesso, le défenseur central, qui est bien placé au deuxième poteau et qui marque dans le but vide. But bien amené de la part des Guingampais. Ils étaient montés à 6 ou 7 sur cette action. 1-0 donc pour l'en avant face à Nîmes, la 35e.
Et ben voilà, Guingamp qui bascule dans la bonne partie de tableau. Il remonte à la 9e place hein, avec ce résultat, avec 30 points et son égalité avec Caen notamment. Le choc de cette 21e journée, c'est Bordeaux-Le Havre, Nico Paolorsi et les Havrais qui mènent toujours à 1-0 face aux Girondins. Hein.
Oui, 1-0 depuis la 15e minute. Le but de Casimir, Le Havre n'a rien fait dans le jeu. Par contre, c'est costaud. Ça s'est projeté une seule fois. Il y a eu un centre dévissé qui a terminé dans le but de Poussin. Et depuis, ben, les Bordelais se cassent les dents sur cette défense havraise à 7 minutes de la fin de la première période. Il y a eu une barre transversale de Junior Manga, il y a eu une parade miraculeuse d'Arthur Desmas sur sa ligne, il y a eu des situations qui sont passées au-dessus du but du gardien normand et la balle est dans les pieds de Stian Gregersen qui va essayer de retrouver Franz Sergio. On essaye de combiner mais c'est toujours aussi compact, même si on a vu Vital Nsimba essayer de prendre son couloir. Johan Barbet qui a beaucoup d'appels devant lui, il préfère la donner à son milieu de terrain. Tom Lacou, ça travaille beaucoup, la possession de balle est totalement bordelaise, mais perte de balle de Junior Manga et ça peut se projeter très vite en contre côté Havre avec Camille Richardson. Il y a une solution à droite, il va la glisser à Josué Casimir. Il y a une faute signalée par monsieur le sage, sur Johan Barbet. 1-0 pour Le Havre.
Tu fais vachement
39 minutes de jeu. C'est très bien fait. Très bien imité. Je pensais qu'on était dans 30 millions d'amis.
Belle référence.
C'est très bien fait.
Tu fais vachement bien le chat. Ouais, merci.
Je
suis content.
Qu'est-ce que tu veux manger, toi?
Gencives de porc.
Ouais, je sais pas n'importe quoi, des gencives de porc. Là, c'était de la peur, bien sûr, bien entendu.
Tout le monde l'avait, enfin.
Bien sûr, tout le monde l'avait. Tu connais ce film, Roland, quand même? Là, c'était de la peur, hein, des nuls.
Ah bah oui.
Tu te souviens? Non, il se fout pas. Roland, il regarde du Audiard et tout. Vous croyez pas que c'est un beauf ou quoi? Ils sont malades, les mecs. 10 minutes avant la pause, pas beaucoup de buts hein, pour l'instant. Tiens, on va aller voir Clément Brossard à Charletti. Comment il va, celui-là?
Eh bien, il est toujours sur un 0-0. Qu'est-ce que je te dise de plus, Nico?
Aussi enthousiaste que moi. Hein.
À part que ce sont deux des équipes les plus faibles attaques sur tout ce championnat. Hein. 18 buts pour le Paris FC, 18 buts pour Pau FC. Rodez et Niort, ce sont les deux seules équipes qui ont fait moins que cela. Et surtout l'état de la pelouse. Alors je sais pas si vous avez les images, mais le couloir droit, on est sur des mottes sur une centaine de mètres. C'est à la limite du raisonnable, c'est même dangereux pour les joueurs. La conduite de balle tout à l'heure de Ali Mami Gori, elle était désastreuse parce que forcément le ballon ne roule plus, il saute.
Ah ouais, à ce point-là.
Et c'est très très compliqué. Ouais, c'est très très compliqué de jouer au football dans ces conditions. On a eu tout à l'heure une cheville qui était à deux doigts de se tordre sur un appui et sur un contrôle qui paraissait pourtant anodin. Je sais que le club du Paris FC et son président Monsieur Ferracci ont souvent râlé contre la mairie de Paris pour remettre en norme tout simplement et à la norme la pelouse de Charletti, mais ce soir ouais, c'est catastrophique encore une fois et ça va pas nous aider à avoir du beau jeu, même si le premier quart d'heure était assez intéressant. Ensuite on est revenu sur un équilibre entre ces deux équipes là, entre ces deux PFC, et pour l'instant toujours 0-0 après 38 minutes de jeu.
Tiens, et on disait tout à l'heure Amiens qui est en train de mettre la pression sur Bordeaux notamment, qui revient à 3 points, qui menait 1-0 face à Niort. Benoît Boutron.
Ouais, un doublé pour Papiss. Il est beau ce but encore hein, avec une longue ouverture, il parvient à dominer son défenseur physiquement et puis l'enchaînement, contrôle du pied droit, extérieur du pied pour tromper Michel, le gardien de but Niorté. Niort qui va mal hein, Niort dernier de Ligue 2, mais là tout est beau sur ce but, l'ouverture, le duel remporté par Cissé et ensuite la finition, ça fait 2-0 pour Amiens.
Amiens qui revient à 3 points de Bordeaux et à 3 points de Sochaux, puisque Sochaux mène 2-0 face à Valenciennes, hein, Sébastien Ruffet.
Eh oui, vous voulez de belles pelouses, vous voulez des buts, ouais. venez chez moi, les gars.
Oui. C'est trop franc.
Vous embêtez pas avec le Paris FC, enfin.
Mais bien sûr.
Mais bien sûr. 7 minutes.
Il est parigo, là, il croit que tout leur est dû, là.
Mais bien sûr, attendez. 7 minutes à jouer ici à Bonal. 2-0 pour des Sochaliens qui maîtrisent un peu la situation, même s'il y a eu une alerte là, sur le but tout à l'heure, quand même, de Maxence Prévost sur un corner qui a été un petit peu difficile à dégager. À capter pour Maxence Prévost sous la pression, mais les Valenciennes quand même assez inoffensifs ce soir, et les Sochaliens étaient même tout proches du 3-0 sur un corner tout à l'heure. Ce ballon qui retombe dans les pieds d'Ibrahim Sissoko, qui est sur la ligne des 6 mètres, il frappe en force, le gardien Baïc n'a pas bougé, mais il y avait un défenseur juste sur la trajectoire, et ce ballon qui est passé vraiment à quelques centimètres au-dessus de la barre transversale. On était vraiment proche du chaos total là pour les Valenciennes dans cette première mi-temps. Un peu plus de 6 minutes encore à jouer, 2-0 pour Sochaux face à Valenciennes, et c'est logique.
Un match qui sent bon la D1, c'est la à l'ancienne. Bastia Saint-Etienne, Julien Pernici.
Bien évidemment.
0-0. Moi je pense à Lubomir Moravchik, tout ça, tu vois. Quel joueur. Tu te souviens, Roland?
Ah ben oui.
Quel joueur c'était, lui. Je sais ce qu'il fait.
Je me rappelle, il y a eu quand même une blessure qui l'a freiné dans sa carrière, mais
quelle élégance. Extraordinaire.
À cause d'Emmanuel Petit, malheureusement.
Mais Manu, il fait que des conneries, de toute façon. Non, faut qu'on le dise, on peut le dire maintenant. Mais... Il est comment ton match, Julien? 0-0
0-0, mais il est bien ce match, puisqu'il y a du rythme vraiment entre deux équipes qui ont l'envie, qui ont la technique aussi, parce que les Stéphanois, certes, ils sont un peu en retrait maintenant après leur bonne période de 5-10 minutes il y a quelques minutes de cela, mais les Bastiais, quant à eux, eh bien, ils continuent sur la lancée de ce qu'ils font depuis le retour de la Coupe du Monde. En plus, Régis Brouard avait fait tourner du côté de Grenade, donc il y a certains joueurs qui sont vraiment frais, et on peut signaler la bonne prestation une nouvelle fois des deux pistons de cette équipe bastiaise, Kevin Van den Kerkhoff à droite, qui à mon avis a quelques clubs de Ligue 1 qui commencent vraiment à le jeter, et Florian Bonheur à gauche, international luxembourgeois. D'ailleurs, Kevin Van den Kerkhoff, il a été transféré cet été d'un club luxembourgeois lui aussi, c'est-à-dire que la filière luxembourgeoise, elle marche du côté du Sporting Club de Bastia. Donc toujours 0-0 entre Bastia et Saint-Etienne au bout de 40 minutes, mais c'est un 0-0 plaisant.
Hé, hey, Doudou.
Ouais.
Il y a toujours 0-0 entre Grenoble et Quévillon.
Voilà, 90e. Je regarde le slogan du GF38, ensemble gagnons les sommets. Oui, bah pour l'instant, c'est les sommets de l'ennui. Hein. Attention, on va s'essayer avec un tir de.
Non, c'est gagnons le sommeil, apparemment.
Ouais, le sommeil aussi, ouais, effectivement. Et puis le manque de précision technique, notamment chez les attaquants grenoblois, même sur les coups de pied arrêtés. Je vous parlais tout à l'heure d'un coup franc. On n'arrive même pas à trouver un petit peu de hauteur pour aller chercher, eh bien, la grande taille, notamment de Loïc Nestor ou d'Adrien Monfray, qui était monté aux avant-postes sur ce coup de pied arrêté. Voilà, c'est une succession de mauvais choix techniques, notamment du côté de Grenoble. Et puis QRM qui, lui, a eu pour l'instant de la malchance avec ce poteau qui a renvoyé le tir de Mafuta à la 12e minute. Les deux bonnes occasions sont pour QRM, et pour l'instant ça fait 0-0, et ça fait 41 minutes que ça la dure.
Tiens, il y a un coup franc intéressant pour Bordeaux face au Havre, Nico Paolorsi.
Qui n'a rien donné. Vous avez vraiment un joli décalage, hein.
Ouais.
Parce que c'était il y a 2 minutes chez moi.
Ah ouais.
Le coup
franc. Ils sont toujours en Ligue 1, Bordeaux, non?
Ouais, c'est ça. Ils ont, franchement, c'est un gros club. Champion de France en 99, Nico. Le ballon dans les pieds de Junior Manga, toujours 1-0 pour les Havrais. Ils ont du mal quand même, les Bordelais, même si le Havre ne produit pas grand chose. Bien fait là, Manga qui va écarter pour Malcolm Bokele. Ah, il y a un ballon un petit peu mou, et ça permet à Quentin Cornette de récupérer un bon ballon de contre là avec Victor Lecal, le capitaine. Keshta qui se projette avec son pied gauche. Il va essayer de décaler sur le côté droit. C'est bien fait. Amir Richardson pour El Hadjam. Il est en bonne situation de centre, le centre d'El Hadjam. Jam coupé de la tête par Johan Barbet, et les Bordelais qui peuvent se relancer vite, mais il y a un petit peu de déchet technique là chez le jeune milieu de terrain 19 ans, Junior Manga. 1-0 pour le Havre, il reste moins de 4 minutes à jouer.
Il est pas mal, hein, ce match, hein. Moins de 4 minutes à jouer, hein. On va pas tarder à rentrer dans les dernières minutes de la première période. Guingamp mène toujours 1-0 face à Nîmes, Xavier Grimaud.
Oui, à 3 minutes de la fin de la première mi-temps, le but de Loïc Mbesso. Les Nîmois qui, pourtant, dans les attaques placées, je trouve, font mieux que les Guingampais. Mais quand on regarde les stats, Guingamp a beaucoup plus tiré au but que le Nîmes Olympique, et a pu marquer sur cette action. C'est là où se sont bien projetés, les Guingampais. Ce but du défenseur Loïc Mbesso qui enchaîne une deuxième titularisation depuis son arrivée au Mercato d'hiver, et qui signe un but pour son deuxième match seulement. Nguessan pour les Nîmois, milieu de terrain, c'est bien ce qu'il fait, une touche de balle avec Pablo Pagis, une touche de balle pour Saïd, la frappe de Pablo Pagis qui va être contrée et dégagée par Jules Godin. Pablo Pagis, Roland, évidemment, fils de Michael Pagis, ce fantastique joueur Michael Pagis, et son fils est pas mal du tout, il lui ressemble pas du tout, par contre dans l'allure Michael Pagis, souvenez-vous, hein, qui jouait toujours le torse bien droit, très élégant. Alors c'est pas qu'il est pas élégant son fils, mais
c'est ce que t'as voulu
il
dire.
Est un peu plus petit. En tout cas, il a du talent et pas mal de technique. Et il joue derrière l'attaquant comme son illustre père, prêté par Lorient. Pablo Plagiste à Nîmes. La 43e, 1-0 pour Guingamp face aux Crocos.
Tiens, on parle pas beaucoup des Crocos, tiens, justement, Roland. Ils ont 19 points comme Saint-Etienne également. 3 points de retard sur le premier non relégable Dijon.
Saison difficile, inquiétante.
Ouais. Avec tout ce qui se passe en plus, hein, avec les supporters, le changement de stade, etc. Là, c'est compliqué ce qui se passe à Nîmes.
Ah oui. C'est ça, quand même, dégringolé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont en première division. Ah oui.
Comme Saint-Etienne. C'est vrai que c'est.
Deuxième division, ok, mais de là à descendre en National 1, ça. Je n'aurais pas passé une seconde.
Allez, les dernières minutes à Bordeaux, entre Bordeaux et Le Havre, dans cette première période. Et les Havrais qui mènent toujours 1-0, Nico Paul Orsi.
Les deux dernières minutes, 1-0 pour Le Havre. Le but de Casimir sur un centre dévissé à la 15e. Et il y a un temps faible à côté Bordeaux.
Oh, le poteau, Bastien ! Oh, le poteau sur ce centre tir à terre de Vandenkerkhoff qui est allé taper le poteau droit de Gauthier Larsonneur. Ça s'approche pour les Bastiens. On est à la 44e minute, toujours 0-0 entre Bastien et Saint-Etienne. Mais énorme occasion pour les Bastiens à l'instant avec ce poteau touché par Vandenkerkhoff.
Allez, grosse occasion pour les Bastiais. Vas-y Nico.
On en reste 1-0. Attention à ce bon ballon pour les Bordelais, récupéré par Dylan Bakwa. Il a du talent, Dylan Bakwa, là. Ouais. Mais Lekal va mettre le pied devant lui. On est à 40 mètres du but de Desmas. Nsimba, la petite passe glissée pour Dylan Bakwa. C'était bien fait de l'extérieur du pied. Barbet qui va couper cette trajectoire. Ce dégagement à vrai de la tête. Il est partout. Le capitaine Giroudin, Johan Barbet. On va juste suivre la fin de cette action avec David Ajvili sur le côté gauche. Il y a un appel, peut-être. Il peut provoquer, mais là, il est tout seul face à 2-3. Le centre d'Ensimba qui refuse le centre, qui va tenter de déborder à son tour, le petit crochet pour se remettre dans le sens du but. Le ballon est centré et il sera sorti. Il est sorti ce ballon en sortie de but. Une minute avant le temps additionnel, 1-0 pour Le Havre.
Les derniers instants également à Bonal entre Sochaux et Valenciennes. Sochaux qui pour l'instant vit une soirée tranquille, Sébastien Ruffet. Hein.
Assez tranquille, ouais. Il y aura une minute de temps additionnel dans cette partie où les Sochaliens mènent, dominent 2-0 face à Valenciennes. Et je le disais tout à l'heure, c'est assez logique, hein. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent côté valenciennois. Ça commence à dérouler un petit peu. On se dit, tiens, il y a une transition qui peut se faire, ça passe à l'île médiane. Et puis là, du déchet technique et la passe n'arrive pas, où elle est interceptée. Les Sochaliens sont bien en place, ils sont sérieux, ils sont concentrés, ils savent ce qu'ils doivent faire ce soir pour rester dans le coup. Parce que derrière, hein, vous l'avez vu ce soir, ça continue de pousser. Et puis devant, ça peut être intéressant également pour ces Sochaliens. Donc voilà, on entre dans le temps additionnel. Qu'est-ce que, voilà, 30 secondes, on va suivre ce centre quand même de la gauche. Ce sera dans les bras de Stéphane Bajic. 2-0 pour Sochaux, juste avant la mi-temps.
Julien Perlitch, on était avec toi il y a quelques instants. Il y avait une grosse occasion pour Bastia qui a tapé le poteau de Saint-Etienne. Il a été légèrement dévié, hein, ce ballon, au dernier moment, par un joueur bastien.
Oui, par Christophe Vincent, effectivement. Voilà. Mais en tout cas, les Bastiais, là, ils ont un corner, là, maintenant, tout à fait. les joueurs Bastiais qui vont le tirer avec c'est Sade Lamonge. Cette fois-ci, ça ne va pas être en deux temps, contrairement au corner précédent. Le corner de Sade Lamonge dans le paquet. Gauthier Larsonneur qui sort et qui prend ce ballon dans les airs, toujours 0-0 entre Bastia et Saint-Etienne. Une rencontre globalement dominée par les Corses. Gauthier Larsonneur qui il y a quelques semaines s'était fait une belle toile avec Valenciennes face au Bastille. Il avait donné quelque part la victoire au Bastille. Il a peut-être envie de se rattraper ce soir dans les buts de Saint-Etienne. Donc,
mi-temps à Sochaux.
Mi-temps à Sochaux, Sébastien Ruffet.
Ouais, la mi-temps. Donc sur ce score de 2-0, les buteurs sochaliens, Sissoko et Mauricio, et restez avec nous car dans un instant je vous expliquerai pourquoi et comment Sochaux a failli perdre ce match en tapis vert.
Sochaux mène 2-0 et tu vas nous expliquer ça.
Teasing.
Mi-temps où, j'ai pas entendu.
À Guingamp,
vas-y Xavier Grimaud, pardon.
Oui, la mi-temps avec l'en avant qui est en tête. 1-0, le buteur c'est Loïc Mbesso à la 33e.
Mi-temps donc à Sochaux, mi-temps à Guingamp. Grenoble, Quevilly, Rouen, Édouard Jay.
Bah, y a du temps additionnel et pour l'instant rien ne change, toujours 0-0. Ce que je vais vous faire du teasing pour la fin de match, parce que toi tu l'as dit, ça va être 0-0 avec peut-être non finalement la défense grenobloise qui arrive à dégager. Eh bien, ce sont plutôt les Normands, hein, qui ont eu les bonnes occasions avec notamment ce poteau de la 12e minute, et l'essentiel des bonnes actions elles sont pour les hommes d'Olivier Chouafny. Mais du côté de Grenoble, on a vraiment vraiment du mal, je vous le répète. C'était équipe qui reste sur 3 matchs sans but et donc sans victoire ici, même 2 défaites en 3 matchs sur les 3 dernières rencontres disputées ici au Stade des Alpes. Et pour l'instant, alors qu'il reste une trentaine de secondes dans le temps additionnel, eh bien on est un petit peu sur la même donnée, 0-0.
Mi-temps à Bordeaux, Nico Paul Orsi.
Exactement, mi-temps à Bordeaux, les Bordelais sont menés, hein. Un but de Casimir contre le cours du jeu à la 15e, un centre dévissé. Il y a une dernière occasion là, juste avant de rentrer au vestiaire, une frappe de loin de Johan Barbet, repoussée par Desmas sur sa gauche avec le petit rebond. Il est très solide, hein, l'ancien gardien de Clermont, et derrière Bokele qui avait le deuxième ballon et qui a vu sa frappe contrée. Donc les grosses occasions, les temps forts sont bordelais, mais le score, il est pour Le Havre qui est vraiment d'une solidité. Ça commence à sentir la Ligue 1, tout ça.
Hein. Ah bah 10 points d'avance avec ce résultat,
ouais,
hein, sur Bordeaux,
tu sais,
et sur Sochaux aussi.
Dans la physionomie des matchs, ils sont pas toujours très bons, mais il y a toujours le petit coup de pouce, la réussite, l'équilibre derrière. Mmh. Tu vois, quand on parle de la chance du champion, je sais que coach il aime bien ça des fois. Là, on n'en est pas trop loin sur cette première mi-temps encore.
Ah, ah ben oui, quand on voit ce centre.
Ouais. Ouais, centre qui est raté.
Mi-temps
à
Paris.
Mi-temps à Bastia d'abord, Julien Pernici, entre Bastia et Saint-Etienne.
Il y a toujours 0-0 entre les deux équipes, avec il y a quelques instants donc le poteau touché par Van Karkov côté Bastia. Ce sont effectivement les joueurs de Régis Broir qui dominent cette rencontre. Ils ont eu pas mal d'opportunités, ils n'ont pas su les conclure pour le moment. Côté stéphanois, eh bien on résiste, et sur les rares incursions qu'il y a eu dans la surface bastiaise, on a vu tout le danger que pouvaient apporter Crasso et Charbonnier. Donc toujours 0-0, mais un match qui promet en seconde période.
Mi-temps, non, c'est pas la mi-temps encore à Grenoble, entre Grenoble et Quevilleron, Edouard G.
Eh bah, ben si, à l'instant.
Eh bah, ben si, tu vois.
À l'instant.
Oh, là,
0-0.
Ah oui, Charlie, j'ai oublié.
Allez, j'espère te promettre que la deuxième mi-temps promet.
Merci, mon doudou. Mi-temps à Charlie.
On reste à 0-0.
Entre le PFC et Pau, Paris FC et Pau, Clément Brossard.
Et bien comme Doudou, 0-0 à Charletti. Vous parlez de la cité de la peur tout à l'heure. Je ne bluffe pas, Martoni, on s'ennuie.
Oh, c'est bon ça. Ils sont là avec les références. On a vraiment une équipe de mecs cultivés. C'est fou ça. Et c'est la mettant partout ailleurs également, mon cher Benoît Boutron. Ouais,
et on dit merci Papy Cissé. Hein. C'est lui qui a marqué les deux seuls buts sur les autres rencontres, puisqu'Amiens mène 2-0 à Niort, 0-0 entre Annecy et Caen, entre Laval et Dijon et entre Metz et Rodez, malgré une énorme occasion pour Miko Tadze qui s'est emmêlé les pinceaux. Et malheureusement pour Metz, ça fait toujours 0-0.
Ouais, pas beaucoup de buts hein, pour l'instant, Roland. En revanche, enseignement, si on peut en tirer à la mi-temps, Le Havre, 10 points d'avance sur Bordeaux et sur Sochaux. Alors, belle opération pour les Sochaliens pour l'instant, Roland. Et surtout pour les Havrais, 10 points d'avance sur Bordeaux. Oui. Nico Paul Orsi le disait il y a quelques instants, ça sent la Ligue 1, là, ça y est.
Ah ben là, c'est pas un grand pas, c'est un pas de géant. Voilà.
Dans quelques instants, on va se faire un point Mercato avec notre monsieur Mercato, Fabrice Hawkins. Le point sur Marseille, sur le Paris Saint-Germain, entre autres, hein, bien entendu. Il y a des infos qui concernent l'OL. Supporter de Marseille, supporter du PSG, supporter de qui vous voulez. D'ailleurs, on vous attend au 32-16. Si vous voulez évoquer la Ligue 2 avec Benoît Boutron et avec Roland Courbis, on vous attend également au 32-16. Je vous rappelle, hein, Hakim Ziyech a passé sa visite médicale au Paris Saint-Germain. Vitinha a atterri à Marseille, le buteur de Braga qui va arriver pour plus de 30 millions d'euros. Et il deviendrait la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Je vous invite à aller écouter le podcast After OM avec Rolando qu'on a fait tout à l'heure en interview, qui a joué avec Vitinha du côté de Braga, qui a joué à l'OM, l'ancien défenseur portugais. Et nous, on revient dans une poignée de secondes avec Roland Courbis et avec vous au 32-16. A tout de suite.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Avec Roland Courbis, avec vous également au 32-16, on est en plein Multi-Ligue 2, c'est la mi-temps dans ces affiches de la 21e journée, et à la pause, Le Havre mène 1-0 à Bordeaux, Le Havre qui prend 10 points d'avance sur les Bordelais qui sont leurs dauphins. Sochaux mène 2-0 face à Valenciennes et revient à hauteur de Bordeaux au classement avec 36 points à 10 points du Havre. Donc 0-0 entre Bastia et Saint-Etienne, entre Grenoble et Quevilly-Rouen. Guingamp mène 1-0 face à Nîmes, 0-0 entre le PFC et Pau, entre Metz et Rodez. Amiens mène 2-0 à Niort, 0-0 entre Annecy et Caen, et 0-0 également entre Laval et Dijon. Dernier jour du Mercato aujourd'hui, on est le 31 janvier. Notre monsieur Mercato est là, Fabrice Hawkins, qui nous tient au courant de tout ce qui se passe. Fabrice, on t'a quitté tout à l'heure. Tu nous disais, bon, Paris essaye de faire Skriniar, bien que le Mercato soit fermé depuis 20h en Italie. Alors, est-ce qu'on a des news en ce qui concerne la possible arrivée de Skriniar au PSG?
Oui, et c'est le président, le patron plutôt de l'Inter Milan qui a pris la parole dans le média Sport Média 7. C'est relayé d'ailleurs à l'instant par l'AFP. Et le patron de l'Inter Milan, ce qu'il dit, eh bien, c'est que Skriniar ne viendra pas au Paris Saint-Germain. En revanche, il viendra bien et il a fait son choix pour l'été prochain. D'ailleurs, il dit qu'il respecte ce choix de Skriniar de partir en juin. Mais il espère justement que Milan Skriniar sera professionnel jusqu'au bout, mais avec du coup l'Inter Milan. Oui, c'est ce qu'il dit.
Ah oui, il met un peu la pression
jusqu'à la fin de la saison, effectivement. Ouais. Donc pas de Milan Skriniar a priori au Paris Saint-Germain.
Alors ça, c'est vrai que Roland, comment tu gères toi ce genre de situation comme entraîneur? T'es l'entraîneur de l'Inter, le président même d'ailleurs de l'Inter. T'as un mec qui est en fin de contrat, tu l'as pas laissé partir au mercato d'hiver. Tu sais qu'il a déjà signé ailleurs. C'est dur quand même, non?
Ouais,
faut pas qu'il se blesse.
C'est dur, mais bon, c'est le règlement. Il faut s'adapter au règlement. Je crois que le coach et le président auront des discussions avec le joueur, et le joueur doit faire vis-à-vis de ses coéquipiers preuve de professionnalisme, même si, paraît-il, ces derniers temps, il était un petit peu plus nerveux que d'habitude. Il se fait expulser. C'est pas non plus que des situations qui lui arrivent très souvent. Donc c'est difficile à gérer, mais c'est comme ça. C'est le règlement et il y a des contrats qui sont faits pour être respectés. Son contrat est terminé au 30 juin. Eh bien, il restera jusqu'au bout de son contrat.
Deux autres dossiers également au PSG. On en parlait tout à l'heure également. Alors, Keylor Navas en partance vers Forest. Alors, est-ce qu'il y a eu un accord de trouver là? C'est bien parti ou pas?
Oui, alors il y a un accord. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Accord entre le Paris Saint-Germain et Nottingham Forest. Maintenant, il faut se dépêcher. Il faut remplir et il faut justement réaliser cette partie administrative assez rapidement, justement pour acter ce départ de Keylor Navas. On se demande d'ailleurs, et c'est toute l'interrogation aussi sur ce dossier, sous quelle forme va partir Keylor Navas. Est-ce que ce sera un prêt? On rappelle que le Paris Saint-Germain a déjà 8 prêts, le maximum.
D'ailleurs, en Portugal, ils disaient aujourd'hui, j'ai 8. Je trouve que Draxler pourrait revenir au PSG.
Exactement. Donc, si jamais Draxler revient, ça permet de prêter Keylor Navas à Nottingham. S'il ne vient pas, le Paris Saint-Germain est bloqué. Mais comme ils ont un accord, la seule possibilité, c'est qu'il laisse partir libre, finalement. Ouais. Donc, ça aussi, on va le savoir. On va voir les détails dans les prochaines heures. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un accord entre le Paris Saint-Germain et Nottingham et qu'il est en train de préparer ses valises. Il est en train de tout faire, Keylor Navas, pour rejoindre Nottingham, justement, le plus vite possible.
Ça, c'est un casse-tête supplémentaire aussi. Hein. C'est-à-dire que maintenant, tu dois gérer le nombre, parce que le nombre de prêts est limité maintenant par la FIFA. Il faut aussi gérer.
Ouais, voilà, c'est Paris Saint-Germain, on a déjà fait mieux.
C'est vrai, il manquait plus que cela que celui-là de règlement. C'est vrai que ça, on n'y avait pas pensé.
Et puis Hakim Ziyech, évidemment, qu'on surveille toujours l'ailier de Chelsea, qui est actuellement à la Factory, au siège de Paris Saint-Germain, à Boulogne, pour signer son contrat. On attend la fumée blanche. Ça devrait arriver.
Abemous Hakimi.
Ouais, ça devrait arriver assez rapidement pour Hakim Ziyech. Donc, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on attend toujours. Hein, et c'est maintenant, il reste quoi, une heure et vingt minutes pour régler tous les détails, en tout cas pour envoyer le contrat de manière formelle à la LFP, et ensuite il y aura encore une heure supplémentaire jusqu'à minuit pour envoyer tous les documents à la FIFA.
Pareil, en attendant la fumée blanche à Marseille pour Vitinha, qui est bien arrivé en provenance de Braga.
Ouais, effectivement, qui est arrivé tout à l'heure. Vitinha, attaquant qui était très attendu de 22 ans, attaquant portugais, qui a signé donc pour un petit peu plus de 30 millions d'euros, pour 32 millions exactement, bonus inclus. 32 millions qui seront payés sur la durée de son contrat, hein, paiement échelonné sur 4 ans et demi. Il devait aller en Angleterre hier soir, il avait trouvé un accord avec Brighton, Southampton le voulait également, ils étaient prêts à faire sauter la clause, hein, de 30 millions d'euros directement, mais lui voulait absolument rejoindre l'Olympique de Marseille. Il est arrivé en fin d'après-midi, je le disais, donc pour passer sa visite médicale, et maintenant on attend que ce soit officialisé.
Merci beaucoup Fabrice, tu interviens quand tu veux, bien entendu, en ce dernier jour, dans ces dernières heures, ces dernières minutes de Mercato. Tiens, juste avant de repartir vers la Ligue 2, on va accueillir Nicolas, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Nico.
Salut
Nicolas.
Alors Nico, qu'est-ce que t'en penses, tiens, du mercato de ton Olympique de Marseille, là, très actif.
Justement, hein. J'appelle pour faire un grand merci à Monsieur Pablo Longoria, qui remet un peu de respect sur ce magnifique écusson, le plus beau de France, bien évidemment.
Du monde.
Vraiment, c'est une fierté d'avoir un président comme Pablo Longoria, qui ne baisse pas le pantalon devant un Mofi là, qui claque quelques buts, qui vient de se réveiller. Je trouve que on négocie avec fermeté, en comprenant qu'on est un grand club et on est en train de reconstruire quelque chose. J'ai pas honte de dire que c'est peut-être le plus grand président depuis. Allez, je vais peut-être pas mourir en disant depuis Pape Diouf, mais oui, peut-être le plus grand président depuis Tapie, parce que peut-être que Pape Diouf avait de plus grandes facilités de marché comparé à.
Non, mais je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Longoria est extraordinaire. Il a le titre de président, mais le boulot qu'il fait, c'est pas un boulot de président, c'est un boulot de directeur sportif, ouais. Recruteur. Et donc, je pense d'ailleurs que pour sa santé, il va pas falloir qu'il fasse pendant longtemps
il
président, directeur sportif,
hein.
Recruteur. Donc, si déjà il fait directeur sportif, recruteur, c'est extraordinaire pour l'OM.
Mais tant qu'il nous ramène des joueurs comme Vitinha.
Ouais, enfin, laisse-le vivre, laisse-le vivre quand même. Il est encore jeune, hein, Pablo. Hein.
Mais il se régale. T'as pas vu son émotion quand
il dort pas beaucoup, surtout.
Ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. À une époque où, moi je pense que par exemple, on s'est beaucoup enflammé sur Unai, il y a une époque où, mais par exemple l'époque Héro, la pire époque peut-être qu'on ait connue avec un président, Unai aurait été par exemple la tête de gondole du projet. Bon, mais voilà, ça aurait été la petite pépite qu'on allait choper. Là non, Unai est venu vraiment presque, on n'en parle pas. C'est la pépite de la Coupe du Monde, mais non. Le monsieur, il va aller chercher du Vitinha, il va aller chercher du Malinowski, même si, bon, mais Malinowski, il va falloir lui laisser du temps, Unai aussi. Mais c'est fait. Ça fait très longtemps que même un directeur, enfin un président, n'a pas aussi bien travaillé dans le football français en règle générale. Quand on voit Paris, bon, j'aime pas parler des autres équipes parce que j'ai entendu un Lyonnais parler mal tout à l'heure, ça m'a énormément énervé, mais bon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un parler de ballon, parler de... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est des compétences, vraiment un réseau. Parce qu'après, il y a un moment où
Nico,
cette équipe a commencé à douter de lui. Hein.
Faut qu'on y aille, Nico. Je suis désolé de te couper. Il y a la Ligue 2 qui va reprendre. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Nico.
Salut, Nico.
Appelle tout à l'heure, tiens. On va dire à Max. Interviens tout à l'heure si tu veux dans l'after. On te fait réagir avec plaisir, Nico, si tu veux.
Allez, super.
Vas-y. Merci, Nico. Belle soirée à toi, Nico. À très vite. Allez, nous on va basculer sur la Ligue 2 dans quelques instants. Deuxième période du Multi-Ligue 2, 21e journée, avec notamment le choc entre Bordeaux et Le Havre. Le Havre qui mène 1-0 à Bordeaux et qui prend 10 points d'avance au classement sur ce Dauphin. On revient dans une poignée de secondes avec Roland Courbis sur RMC.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Avec Roland Courbis et avec le correspondant, c'est reparti pour le Multi-Ligue 2, 21e journée de Ligue 2, avec notamment un merveilleux choc entre Bordeaux et Le Havre. Le Havre leader qui se rend chez son Dauphin, et Le Havre qui mène 1-0 à la pause, qui prend 10 points d'avance au classement sur Bordeaux, sur Sochaux, puisque Sochaux mène 2-0 face à Valenciennes également dans le même temps. Tiens, juste avant d'aller retrouver Nico Paul Orsi au Matmut Atlantique, Sébastien Ruffet qui nous fait vivre Sochaux-Valenciennes. Seb, tu nous as fait un petit teasing tout à l'heure. Tu allais nous expliquer pourquoi Sochaux a failli perdre ce match sur tapis vert face à Valenciennes ce soir.
Oui, alors que ça vient juste de repartir à Bonal entre Sochaux et Valenciennes 2-0. Tu l'as dit, bien parce que lors de la conf de presse d'avant match, il y a des collègues qui ont fait remarquer à Olivier Guégan que Franck Hanoutet, le milieu de terrain, comment vous allez faire sans lui puisqu'il est suspendu. Et il leur répond la commission de discipline la semaine dernière nous a rien signalé, donc pas de souci. Sauf que effectivement, il avait accumulé ses 3 cartons jaunes en 10 journées et il y a eu une semaine en fait sans commission de discipline, donc pas d'infos qui sont remontées entre-temps. Et là des tweetos en fait, des supporters de Sochaux se sont un petit peu affolés parce que eux ils ont senti le coup venir. Et d'ailleurs, si vous regardez l'équipe d'aujourd'hui, Canouté est dans la compo probable du FC Sochaux-Montbéliard. Et donc les tweetos se sont un peu passé le mot. Ils ont mentionné le FC Sochaux-Montbéliard en espérant que la com les entende, dévoile le message. Et effectivement, alors que le groupe est annoncé en général la veille au soir, là Olivier Guégan n'annonce pas le groupe. Et ce matin, effectivement, Canouté n'était pas dans le groupe pour jouer. On est passé à côté d'un gros couac puisque la commission de discipline n'avait pas transmis l'info. Que à Sochaux, on s'est basé là-dessus sans se baser soi-même sur ses propres statistiques. Le fait que le joueur était effectivement suspendu, il aurait donc pu être aligné sur les feuilles de match. Et les Valenciennes auraient eu tout loisir de porter une réclamation sur cette rencontre-là. Donc voilà à quoi ça s'est joué finalement.
Et voilà, merci la presse, hein, merci les journalistes.
Je ne sais même pas s'il y a besoin d'une réclamation. Donc si tu fais jouer un joueur suspendu, je crois que c'est même sans réclamation, je crois. Hein.
Donc vous voyez à quoi ça s'est joué. Donc bravo aussi la mobilisation des supporters de Sochaux sur Twitter qui ont inondé un petit peu le club de messages pour faire remonter ce petit point-là. Et voilà. Donc on est passé quand même pas loin d'une catastrophe pour Sochaux parce que ce match-là, tu peux le gagner ce soir et rester dans la course comme tu aurais pu le perdre de manière vraiment très très bête. Donc voilà pour la petite
Sochaux,
anecdote.
En ce moment, entre les matchs remis. Qui auraient pas dû être remis, qui auraient dû être remis, oui. Qui ont été remis, plus maintenant ce que tu nous racontes, c'est la période Sochaux, mais ça ne les empêche pas de prendre des points.
Ouais, sur le terrain, ça se passe bien en tout cas. Après, en coulisses, des fois, c'est un petit peu plus folklorique, mais.
Sauf contre quand, la dernière minute, ils ont pris un coup de marteau sur la tête.
Reparti à Bordeaux.
Allez, c'est reparti quasiment partout. C'est reparti à Bordeaux, entre Bordeaux et Le Havre, Nico Paul Orsi.
Oui, reparti depuis une petite vingtaine de secondes. Et il y a eu un changement tactique de David Guillon. On en parlait à la mi-temps. Mettre un petit peu de densité devant aux côtés de Josh Maja. Sortir un milieu de terrain, c'est ce qu'a fait Guillon avec la sortie de Tom Lacou et l'entrée en jeu de l'attaquant de pointe massif Ayoub Hadji. Le ballon pour les Bordelais qui vont écarter le jeu avec Franck Sergio. 1-0 pour les Havrais. Je vous rappelle le but contre le cours du jeu. Mais derrière, Le Havre a fait preuve d'une solidité extrême. Le but de Casimir à la 15e.
C'est reparti à Bastia, entre Bastia et Saint-Etienne, Julien Pernici.
Toujours 0-0 entre Bastia et Saint-Etienne, quasiment à la 47e minute de jeu. Des Bastiais qui en première période ont été assez dominants face à des Stéphanois qui ont fermé le jeu et qui ont été assez solides, dangereux sur leur rare sortie offensive. Donc de quoi effectivement promettre pour cette seconde période avec Van Kerkhoff qui est sur le côté droit, selon centre du Bastiais qui revient finalement sur la gauche. Ça repart et cet arrêt de Larsonneur sur le tir d'un joueur Bastiais. Je crois que c'est Tom Ducrot qui a tiré corner corner pour les Bastiais, mais en tout cas grosse occasion pour les Bastiais d'entrée de jeu dans cette seconde période face à Saint-Etienne. Les joueurs de Régis Brouard qui poussent, parce qu'en cas de victoire ce soir, ils pourraient être seulement à 2 points de la deuxième place. Ça changerait complètement le championnat des Bastiais, qui n'était pas du tout programmé pour la course à la montée en Ligue 1. Donc toujours 0-0 entre Bastiais et Saint-Etienne.
C'est reparti également entre Grenoble et Quevilly-Rouen, Edouard G.
Et oui, depuis 1 minute 30 et le score n'a pas changé, toujours 0-0 avec une tentative de centre de Jordi Gaspard, mais finalement une nouvelle fois contrée par Quevilly-Rouen dans un match qui pour l'instant est un peu insipide, notamment du côté de Grenoble, toujours aussi peu inspiré quand il faut faire le jeu, notamment à la maison. Ça se passe mieux hors de ses bases, mais à la maison c'est catastrophique, et ça se confirme encore dans cette moitié de match et 2 minutes, puisque la deuxième période a débuté depuis bientôt 120 secondes, 0-0 et toujours pas d'action dangereuse pour les Grenoblois, alors qu'on le rappelle.
Et le pénalty à Bastien.
Ah, pénalty à Bastien, Julia Pernici.
Après un raid incroyable de Kevin Van den Kerkhoff sur le côté droit, il a dribblé 3 joueurs stéphanois, il s'est infiltré dans la défense et il y a eu une faute, un croc en jambe clair et net d'un défenseur stéphanois qui va donner un pénalty pour les Bastiais, qui vont avoir l'occasion d'ouvrir le score dans cette rencontre dès la 48e minute de jeu, et les joueurs de Régis Brouard ont l'occasion de concrétiser leur domination. Et d'ailleurs c'est Kevin Van den Kerkhoff qui va se faire juste lui-même.
Quelle erreur, Roland, la défensive là.
C'est même pas là, tu dois avoir une amende pour stupidité.
En fait, je sais pas s'il glisse pas d'ailleurs.
C'est même pas un carton que tu dois avoir.
Je sais pas s'il glisse pas le défenseur de Saint-Etienne. Ah, en tout cas, il faut son adversaire.
J'espère pour lui.
Allez, pénalty à venir pour Bastia face à Saint-Etienne. Peut-être le premier but de ce match. Et tu le disais, hein, Julien, en cas de succès, les Bastiais, ils reviendraient à 2 points.
À 2 points de la deuxième place. Ce qui serait complètement fou de Bordeaux. Pour une équipe qui, avant la trêve de la Coupe du Monde, était vraiment dans la course au maintien et était même mal en points. On peut le dire. Le pénalty qui va être tiré dans un instant par Kevin Van den Kerkhoff, le joueur français qui vient du Luxembourg. Et la but ! Pénalty parfaitement tiré par Kevin Van den Kerkhoff. Gauthier Larsonner avait plongé du bon côté, mais ça fait 1-0 pour le Sporting Club de Bastia, dans une ambiance de folie. Vous l'entendez derrière moi, les supporters bastiais qui fêtent ce but de Kevin Van den Kerkhoff. Et on peut le dire, au vu de la physionomie du match, c'est mérité pour les Bastiais, cette ouverture du score. Ça va changer vraiment la physionomie de ce match. Les Stéphanois qui vont devoir réagir, eux qui sont en course pour leur survie dans ce championnat. 1-0 pour Bastia grâce à ce pénalty signé Kevin Van den Kerkhoff.
Ouais, et Saint-Etienne, ça fait 4 points de retard sur le premier non relégable, à savoir Dijon. En revanche, Bastia revient à 2 points, on le disait, de la deuxième place, à 2 points de Bordeaux et de Sochaux. Ça c'est fou quand même, hein, ce qui se passe et à Bastia et à Saint-Etienne, hein, Roland.
Ah ben oui, et là il y a encore un troisième match de la semaine, vendredi. Ils font quoi, Bastia, vendredi?
Alors vendredi, Bastia va à Caen, qu'ils ont battu fin décembre d'ailleurs à Fourias. Voilà.
Ça va être pas mal, ça également. Guingamp-Nîmes, Xavier Grimaud, les Guingampais qui menaient 1-0 à la pause face aux Crocos. Hein.
Oui, c'est toujours le cas. C'est reparti depuis quasiment 6 minutes avec le buteur, hein, Loïc Mbesso à la 33e, dans un match qui était assez équilibré. Les Guingampais qui repartent bien, hein, d'ailleurs, avec une nouvelle attaque, peut-être Maxime Barthel, mais pourquoi pas tenter sa chance. C'est dévié par le dos de la défense et Axel Maraval qui va sortir de sa moitié de terrain pour sauver le corner. Ce serait une touche en faveur de Guingamp avec un changement à la pause pour les Bretons. La sortie de Dylan Louisser remplacé par Souleymane Diarra, peut-être touché Dylan Louisser parce qu'il n'avait pas pris de jaune, donc ça ressemble visiblement à un petit pépin physique. On va suivre encore les Guingampais qui vont finir cette action, peut-être une possibilité de centre avec la faute de Maxime Barthelmé, et les Nîmois qui vont pouvoir repartir, les Nîmois en mauvaise posture, hein, très mauvaise posture même, si le score en restait là. 1-0 pour Guingamp.
1-0 pour Guingamp, et c'est reparti également à Charletier entre le Paris FC et Pau, Clément Brossard, sur une pelouse compliquée, hein, tu le disais tout à l'heure. Hein.
Il n'y a pas eu de changement et des jardiniers qui ont bien travaillé. Non, mais les jardiniers étaient présents pendant le quart d'heure, ça a même pris un petit peu plus de temps. Je crois que la mi-temps a duré 17 au lieu de 15 minutes parce que on s'affairait là à remettre en état le mieux possible le flanc droit sur lequel vont attaquer les Palois en seconde période. Mais on sent que la moindre petite chaussure qui traîne et c'est la motte qui se reconstitue. Donc c'est vraiment compliqué pour faire un football de bonne qualité après une première période qui a vu les Parisiens pousser, surtout en tout début de match, une maîtrise totale du ballon également, plus de 70%. 80% de possession de balle pour les hommes de Thierry Loret, mais peu de réussite devant. Les occasions que se sont créées les Parisiens, eh bien, elles n'ont pas été conclues. Et puis on parle du calendrier là pour les différentes équipes de Ligue 2. Va falloir se remettre la tête à l'endroit également pour ces deux équipes là ce soir, parce que vendredi, eh bien, le PFC, le Paris FC pardon, ira au Havre et Pau recevra Bordeaux, deux grosses équipes de ce championnat de Ligue 2. Il va falloir retrouver de la confiance, donc 0-0 toujours après 50 minutes.
0-0 entre le PFC et Pau. Donc Benoît Boutron, rien ne va plus à Niort.
Ah oui, Niort dernier de Ligue 2. Niort mené 3-0 à domicile au stade René Gaillard. Un triplé de Papis Cissé qui vient d'inscrire un troisième but sur pénalty. Carton rouge pour Kylamas sur cette action. Là, c'est catastrophique.
C'est comme en Ligue 1, il y a 4 descentes.
4 descentes directes.
Ouais. Ouais. Ouais, ça va être c'est chaud là. Ça va être très compliqué. Là, pour l'instant, on a Rodez, Nîmes, Saint-Etienne et Niort dans la charrette.
Ça va être difficile d'en doubler 4. Hein. Pognon.
Ah bah oui, il y a trop de retard.
Là, ils ont 5 points de retard sur Dijon.
Ouais, disons, c'est le Angers de la Ligue 2. Quoi.
On peut dire ça comme ça. Allez, on repart à Bordeaux. Bordeaux-Le Havre, Nico Paul Orsi, c'est le choc de cette soirée. Et les Bordelais qui courent après le résultat, qui sont menés 1-0.
Hein. Ouais, c'est une attaque défense hein, depuis le début de cette deuxième mi-temps. Je suis même pas sûr que Le Havre soit allé dans les 40 mètres bordelais, mais ce sont bien les Havrais au score qui mènent 1-0 depuis la 15e. Le but de Casimir sur un centre dévissé. Les Bordelais accumulent les situations. On sent que le coaching de David Guillon est vraiment payant hein, au niveau du jeu. Bordeaux est beaucoup plus dense. Bordeaux arrive à récupérer des ballons hauts. Mais Bordeaux manque de précision dans le dernier geste. Le ballon sur Kitala, la belle pression défensive de Greg Hersen qui du torse va forcer Kitala à mettre ce ballon en touche. Remise en jeu pour Malcolm Bokele sur le côté gauche alors qu'on joue la 52e minute. On va repasser par Gaëtan Poussin. Il y a des appels devant dans tous les sens. Est-ce que Greg Hersen va essayer d'allonger le jeu? Non, il va repasser par Franz Sergio. 1-0 pour les Havrais. Attention à ce ballon pour Dylan Bakwa sur le côté droit. Belle balle là de Franz Sergio. Pour lancer son ailier droit, il y aura un coup franc pour Bordeaux et on sait qu'ils sont à droit dans cet exercice.
Vas-y, Nico,
et un carton
on va rester Nico. Bordeaux qui est mené 1-0 hein, face au Havre. Bordeaux qui compte maintenant 10 points de retard hein, sur le Havre, et Bordeaux qui voit surtout Sochaux revenir à égalité de points puisque Sochaux mène 2-0 face à Valenciennes. Mais les Bordelais qui ont l'occasion d'être peut-être d'égaliser, coup franc à venir pour les Girondins, Nico.
Exactement, avec un carton jaune contre Christopher Opéry sur cette faute sur Dylan Bakwa qui avait fait un beau crochet là pour se défaire du marquage du latéral gauche Normand. Coup franc frappé, sorte de corner ouvert, mais on est proche de la surface de réparation, de la droite vers la gauche quand on regarde les buts de Desmas. Et c'est Vitaly Simba qui les tire depuis le début de la partie. Clément Michelin lui est sur le banc de touche. On a vu les Bordelais marquer beaucoup de buts dans ce secteur de jeu depuis le début de la saison, notamment grâce aux grandes tailles de Greg Hersen, de Bokele, de Johan Barbeck, encore marqué à Dijon le week-end dernier sur corner. Monsieur Lesage qui fait un peu respecter les distances nécessaires dans la surface de réparation, parce que ce match commence à se tendre. Bien évidemment, c'est frappé par Nsimba, but Bordelais. C'est dévié au premier poteau, je me demande si c'est pas un contre son. Il est frappé fort ce ballon au premier poteau et il est dévié par un joueur accroché du bout du crâne. Il dévie la trajectoire de cette balle. Égalisation bordelais, mérité, un partout, 54 minutes de jeu.
Ouais, est-ce que c'est pas un joueur à vrai même qui l'a mis dans son camp, je sais pas.
Hein. Ah, j'ai l'impression comme ça à vitesse réelle, mais j'en suis pas sûr. Vous me direz, j'ai pas d'écran.
En tout cas, c'est deux buts avec de la réussite hein, dans ce match, hein, on va dire. Hein. Parce que là, le coup franc, je sais même pas si il peut la frapper direct.
Dans les mêmes buts.
Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, Bordeaux égalise hein, face au Havre. C'est plutôt mérité, Nico, non?
Ouais, c'est totalement mérité. Franchement, ce que je vous disais, les deux attaquants, là, l'entrée de Badji a fait beaucoup de bien. Et on sentait les Havrais reculer. On sait que c'est une de leurs forces. Hein. Seulement leur 9e but encaissé depuis le début de saison. Mais là, quand même, je pense que la possession de balle, j'ai pas les stats sous les yeux. C'est le Havre qui marque contre son camp. Ouais, alors il sera peut-être attribué à Nsimba parce que j'ai l'impression que ce ballon est quand même cadré.
Ouais.
Donc peut-être que c'est un coup franc direct pour Vital Nsimba, mais globalement c'est mérité. Et ça relance totalement ce choc entre Bordeaux et le Havre.
C'est Opéry qui dévie. Voilà, me souffle Jimmy Brown. Un partout entre Bordeaux et le Havre. Le temps, le score, messieurs. Sochaux-Valenciennes, Sébastien Ruffet.
58 minutes ici au Stade Bonal, 2-0 pour Sochaux, Debussy, Sissoko et Mauricio.
Bastia Saint-Etienne, Julien Pernich.
Eh bien 1-0 au bout de 56 minutes pour Bastia face à Saint-Etienne avec un but de Van de Kerkhoff et un poteau il y a quelques instants pour les Stéphanois.
Grenoble, Quevilly-Rouen, Edouard G.
56 minutes de jeu, 0-0.
Guingamp-Nîmes, Xavier Grimaud.
La 57e, 1-0 pour Guingamp, Mbesso pour le buteur en première mi-temps.
Paris FC, Pau, Clément Brossard.
Les Parisiens continuent de pousser. 54 minutes de jeu, 0 à 0. Mais un poteau trouvé à l'instant par Julien Lopez. Le poteau donc d'Ndiaye qui repousse la tentative du frère de Maxime Lopez, l'ancien Marseillais. 0-0.
Et les autres scores, Benoît Boutron.
3-0 pour Amir à New York avec un triplé de Papi Cité. 6-0 New York qui réduit à 10. 0 à 0 entre Metz et Rodez, entre Annecy et Caen et entre Laval et Dijon.
La suite de ce Multi-League 2 dans quelques instants. Je vous rappelle qu'il y a toutes les infos Mercato qui tombent. Fabrice Hawkins intervient dès qu'il se passe quelque chose. Il reste 2 heures avant la clôture du Mercato en France. Et on vous tient au courant dans l'after, l'after qui est là jusqu'à minuit comme tous les soirs. A tout de suite avec Roland Courbis.
RMC, l'after live.